consensus taïwanais signifie que dans la situation actuelle de pression géopolitique qui menace, disons, d'une guerre, il convient de serrer les rangs derrière cette république.
Chers amis du Dessous des Cartes, voici une leçon de géopolitique, un grand entretien pour éclairer l'actualité internationale aujourd'hui, la vie politique taïwanaise, avec en janvier 2024, dans moins d'un an, l'élection présidentielle sur fond de montée des tensions dans le Détroit. Qui seront les acteurs de cette élection? Quel thème de campagne? Quelle vie politique pour la démocratie taïwanaise? Avec l'épée de Damoclès d'une guerre contre la Chine autoritaire de Xi Jinping, on en parle avec vous, Stéphane Corcuff, bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon et vous êtes un grand spécialiste du monde chinois contemporain. D'un mot, bien sûr, est-ce que vous pouvez commencer par revenir avec nous sur Tsai Ing-wen, cette étonnante présidente de Taïwan qui fait face à la Chine de Xi Jinping? Depuis combien de temps est-elle au pouvoir? Est-elle dans le paysage politique taïwanais? Quel est son parcours? Quel est son bilan?
Alors, l'une des particularités de Madame Tsai Ing-wen est qu'elle a été élue présidente de la République de Chine, donc à Taïwan, en 2016, et c'était le premier mandat pour lequel elle a été élue. Elle a, en d'autres termes, pas fait de campagne et pas eu de poste dans des responsabilités locales, des gouvernements locaux de Taïwan. Avant ça, elle a été quand même aux affaires dans un certain nombre de postes ministériels, et notamment un poste crucial. Elle était ministre des affaires continentales, donc de Taïwan. Tsai Ing-wen, c'est une femme qui est à la fois extrêmement intelligente, elle a été formée dans les meilleures universités, et notamment à la London School of Economics and Political Science à Londres. Et elle a fait, j'ai souvent coutume de le dire, sa maturité politique, précisément dans cette époque de la fin des années 90, quand Taïwan était engagé à la fois dans la démocratisation qui a abattu la dictature et dans la taïwanisation des institutions pour laisser émerger une nation taïwanaise.
Tsai Ing-wen, c'est quel genre de personnage politique, quel genre de caractère, quel genre de relation aussi avec la population taïwanaise?
Alors c'est une personnalité assez populaire à Taïwan. Les Taïwanais lui savent gré d'avoir été tenace sur les engagements qu'elle a pris, et notamment face à Pékin, et face, disons, à la question de l'édification d'un outil militaire à Taïwan, elle s'est présentée très rapidement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire institutionnellement la chef des armées, mais elle a énormément rendu visite aux chefs militaires, aux différentes armes. Elle s'est montrée souvent sur le terrain et elle présente vraiment l'image d'une personne mobilisée en permanence pour répondre à la pression militaire chinoise croissante.
Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'une majorité de Taïwanais valide, j'allais dire, la ligne Tsai Ing-wen, vous l'avez dit, qui est une ligne d'affirmation vis-à-vis de Pékin et qui n'essaie plus du tout de jouer la carte du compromis?
Le consensus taïwanais signifie que dans la situation actuelle de pression géopolitique qui menace, disons, d'une guerre qui serait terrible pour Taïwan, il convient de serrer les rangs derrière cette république, la République de Chine qui est à Taïwan et qui est une démocratie. Ça, c'est le consensus. Et on voit qu'avec son effort dans le camp indépendantiste, l'appropriation des symboles de cette République de Chine qui venait du continent à l'origine, s'est accrue dans les rangs du Kuomintang, notamment avec une sorte de consensus derrière le drapeau national. Mais disons que le Kuomintang, qui reste attaché à, disons, l'unification ultime, et la Chine, bien entendu, qui joue sur ce levier, ces deux acteurs utilisent un petit peu ce fond culturel chinois qui est propre à Taïwan pour dire « vous ne pouvez pas laisser tomber la mère patrie ».
Alors, venons-en en effet au Kuomintang, qui est le parti d'opposition au parti présidentiel de Tsai Ing-wen. Le Kuomintang, c'est le parti de Chiang Kai-shek. On a longtemps beaucoup dit que c'était le parti nationaliste. Et paradoxalement, c'est un paradoxe en tout cas vu d'Occident, c'est ce parti de Chiang Kai-shek, ce parti nationaliste, qui prône le rapprochement avec Pékin.
Alors, on peut historiciser ce changement, car en effet, il y a eu un changement considérable. Pendant toute la période qui allait de 1949 aux années 90, le Kuomintang au pouvoir à Taïwan voyait la Chine communiste comme l'ennemi qui lui avait ravi son territoire. Mais pour autant, il ne se pensait pas du tout comme un parti indépendantiste taïwanais. Disons que voilà, c'était les frères ennemis. Et puis, le programme politique du parti nationaliste chinois, du Kuomintang, concevait dès le début la démocratisation après cette phase de période autoritaire. Et quand la démocratisation est venue, le fait est que le Kuomintang n'était plus en Chine, mais il était à Taïwan. Et l'électorat à Taïwan était donc insulaire, taïwanais. Et finalement, un autre, et non des moindres, des paradoxes, c'est que Chiang Kai-shek, ayant coupé de fait Taïwan de la Chine, finalement, il n'a pas permis, en dépit de ses politiques culturelles, de renforcer énormément ce sentiment d'appartenance profond des Taïwanais à la Chine. Et finalement, quand la démocratisation est arrivée, il a fallu réélire les chambres, il a fallu élire un président de la République, et tous les votants étaient des Taïwanais dans l'île, dont une minorité seulement issue du continent. Et quand cette démocratisation finalement s'est développée, les Taïwanais sont arrivés au pouvoir, et là le Kuomintang a immédiatement changé, avec une partie d'entre eux qui ont troqué la valeur démocratie pour la valeur nationalisme et nationalisme chinois. Ça s'est concrétisé en 2004 et en 2005 avec un nouvel accord entre le PCC, donc le Parti communiste chinois, et le Kuomintang à Taïwan, qui était en visite sur le continent et qui s'est fait derrière le dos des indépendantistes, entre guillemets, de Taïwan, qui étaient au pouvoir à la présidence.
J'aimerais qu'on essaye de connaître un peu mieux William Lai, dont on va sans doute beaucoup entendre parler ces prochaines semaines et ces prochains mois, qui va donc au fond certainement prendre la suite de Tsai Ing-wen. Quel est son caractère? En quoi est-il semblable ou très différent de l'actuelle présidente?
Alors effectivement, leurs caractères sont assez dissemblables. Tsai Ing-wen va fréquemment au contact de la population, mais disons qu'elle joue son rôle. Elle est très appréciée, comme je vous l'ai dit, par ses troupes en tout cas, mais disons qu'elle joue son rôle. Alors que William Lai, Lai Ching-de, c'est quelqu'un qui a il a ça dans le sang. Il adore le contact avec la population, il est extrêmement souriant, et puis c'est un élu à l'origine du sud de Taïwan, dans une ville qui est très importante à Taïwan, qui est la ville de Tainan, où a commencé la colonisation hollandaise en 1624. C'est un peu le lieu où commence l'histoire de Taïwan au début du 7e. Et il a été élu, très bien réélu là-bas, au point qu'on l'appelait le dieu Lai Shen. Et donc, il est extrêmement populaire à Taïwan. Il a été premier ministre également de Tsai Ing-wen avant de devenir vice-président. Donc, pour lui, c'est une route toute tracée. Il a des chances raisonnables, disons, d'être élu.
Si une majorité de Taïwanais, dites-vous aujourd'hui, choisit plutôt le parti présidentiel de Madame Tsai Ing-wen et donc de William Lai, est-ce que ça veut dire qu'une majorité de Taïwanais aujourd'hui assume l'idée de la guerre, se dit prête à la guerre?
J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on sent que les Taïwanais semblent, dans leur majorité, résignés à l'idée que la guerre va arriver. Alors, résigné ne veut pas dire forcément prêt à se battre. Ce qu'on note, c'est qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de mouvement majeur d'envoi de fonds à l'étranger ou d'achat d'immobilier par les Taïwanais en Europe ou en Amérique du Nord, comme s'ils avaient compris qu'au fur et à mesure que ces manœuvres militaires se multiplient et se rapprochent, l'issue guerrière de ce conflit dans le détroit de Taïwan serait inéluctable.
On voudrait essayer de comprendre aussi avec vous quelle est l'influence de Pékin dans la vie politique taïwanaise. D'abord, de quelle manière finance-t-elle ou non le Kuomintang? Comment essaye-t-elle d'influer sur les thèmes de campagne? Que se passe-t-il notamment aussi sur les réseaux sociaux? On sait aujourd'hui l'importance que prend le numérique dans la vie politique. Que pouvez-vous nous en dire?
Peut-être le phénomène le plus important est celui des investissements financiers des Chinois dans les médias taïwanais, avec une volonté de prise de contrôle pour évidemment informer la population de son point de vue. Je dirais, deuxième problème, vous l'avez mentionné, c'est les médias sociaux. Et là, on a clairement sur la question l'impression que la Chine a compris, comme à notre égard d'ailleurs, l'Occident et l'Europe et les États-Unis, que sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, s'ouvre un énorme champ d'influence pour elle. Elle sait comment formater un discours qu'il est facile de déconstruire, mais on est dans un cas de ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir de déstabilisation, le sharp power, qu'elle co-invente avec la Russie et d'autres États illibéraux.
Il y a un narratif chinois aujourd'hui pour dire qu'au fond, il y a une histoire chinoise, un ancrage chinois de Taïwan. Il y a également un narratif chinois pour dire que avec la Chine, ce n'est pas la guerre. Et l'on se dit que ce discours-là pourrait séduire une partie des Taïwanais qui légitimement pourraient avoir peur de la guerre. Comment les Taïwanais parlent de ces sujets-là?
La Chine aujourd'hui est le principal carburant du mouvement indépendantiste taïwanais et de l'édification d'une nation taïwanaise parce que elle propose une solution binaire avec deux options, la paix ou la guerre, et rien entre les deux. Sachant que la paix, c'est pas possible pour une raison très simple, c'est que la solution pacifique que propose la Chine aux Taïwanais, et ça ils le comprennent très bien, c'est en gros d'abandonner leur régime juridique, officiel, souverain de la République de Chine, qui a été fondée en 1912, qui a été présente à l'ONU, etc., et de troquer ça contre un pays de système dans lequel les Chinois feraient beaucoup de concessions à Taïwan, quand on regarde la lettre de la proposition, mais dans laquelle ils perdent leur statut d'État souverain. Donc quand on propose à des Taïwanais démocratiques de perdre leur souveraineté pour fusionner avec un État qui est aujourd'hui néo-totalitaire et assez menaçant, évidemment, la conviction est très verte. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution pacifique. Ça, c'est de la rhétorique. La seule solution, c'est de forcer les Taïwanais à faire soumission. Et donc là, les Taïwanais, et on le voit de plus en plus, ne feront pas soumission.
Et pour autant, la majorité des Taïwanais, au fond, si j'ai bien compris, veut conserver ce principe du statu quo. C'est-à-dire, au fond, il y a une certaine modération, une certaine tempérance à ne pas chercher à aller plus loin. C'est-à-dire réellement un État totalement indépendant qui demanderait de nouveau à siéger aux Nations Unies, comme si, au fond, une majorité de Taïwanais avait renoncé à cette exigence-là. Est-ce que je me trompe?
Le statu quo lui-même est en train de bouger. Le statu quo, on entend quoi par le statu quo? On a deux États, dont un qui est majoritairement reconnu et qui maintient un irrédentisme, c'est-à-dire une menace d'invasion de Taïwan, et l'autre qui, disons, a disparu des organisations internationales et dont on ne veut plus trop dire qu'il est souverain, même s'il l'est effectivement. Et puis, on attend des Taïwanais dans ce statu quo qui ne redemandent pas le retour à l'ONU, etc. En fait, les Taïwanais ont bien intégré cette nécessité pour eux, puisque sinon, ils perdraient le soutien des États-Unis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le statu quo qui change, il change à cause de la Chine qui bâtit un État, un outil militaire à même de donner à Pékin les moyens d'une attaque à l'échelon de quelques années. Et les Taïwanais, face à ça, se disent, bon, nous, on a joué le jeu de ne pas changer le nom de notre régime de République de Chine en République de Taïwan pour satisfaire tout le monde, et finalement, la Chine en profite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les États-Unis se rendent compte que ce statu quo qui s'est effondré, en fait, sans qu'on s'en rende compte, est menacé de nous amener à la guerre.
Dernière question, Stéphane Corcuff. Dans le débat public taïwanais, au fond, y a-t-il d'autres sujets que ces sujets que nous venons d'aborder, c'est-à-dire la relation à Pékin, la peur ou non de la guerre, la question du statu quo? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui dominent dans le débat public taïwanais, au Parlement taïwanais?
Donc effectivement, la question identitaire et géopolitique est centrale, mais pour autant, Taïwan, c'est une société libre, démocratique, extrêmement ouverte sur le monde. Donc finalement, énormément de débats sont aussi mentionnés. On pourrait citer deux grandes idées, mais il y en a encore plein. Eh bien, le progrès social, notamment avec le vote de la loi pour le mariage pour tous il y a quelques années. Et puis tous les autres sujets sur lesquels on doit encore progresser, par exemple le statut des ouvriers, les maladies industrielles du passé, les réparations, etc. Et puis on a évidemment à Taïwan une très grande conscience de l'impératif écologique, et notamment du fait que Taïwan est située sur le tropique du Cancer, dans une zone tropicale et subtropicale, et très consciente des conséquences du réchauffement climatique. Ce qui me frappe sur Taïwan après quasiment 3 décennies d'études de cette île, c'est que le greffon démocratique, parce qu'à l'origine c'est un greffon, a plutôt bien fonctionné et qu'a non seulement Taïwan a adopté les canons de la démocratie, mais en plus a trouvé des moyens de progresser dans la pratique démocratique. De ce point de vue, Taïwan nous montre que la démocratie peut encore se réinventer, qu'elle a de nouveaux horizons à conquérir. Et qu'on peut regarder à Taïwan pour prendre quelques idées qui seraient utiles pour nous.
Merci infiniment, Stéphane Korkuff, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Lyon, spécialiste du monde chinois contemporain. Vous avez notamment dirigé ce numéro d'Historia, Pékin-Taïwan, la guerre des deux Chines, et un livre à paraître, je crois, en octobre prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle leçon de géopolitique. À bientôt.